Radio Clash, une émission réalisée par les jeunes de l'Entre-Liens. Et ouais, on a tous quelque chose à dire.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Radio Clash, l'émission des jeunes de l'Entre-Liens. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème de société, le patriarcat. Et pour parler de tout ça, évidemment, j'ai tout un groupe de jeunes autour de moi. Et nous avons aussi une invitée, Marie-Frédérique. Alors, je propose qu'on fasse un petit tour de table directement pour se présenter. Alors, à ma droite, j'ai...
Maria.
Tu as quel âge, Maria ?
19 ans.
19 ans.
Ouais, il y a César, j'ai 15 ans.
Ok.
Si, j'ai 14 ans.
Kelly, j'ai 15 ans.
Gabi, j'ai 15 ans.
Alejandro, j'ai 17 ans.
Anas, j'ai 15 ans.
Et donc, notre invitée du jour, Marie-Frédérique, est-ce que tu peux peut-être te présenter rapidement, Marie ?
Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Marie. Marie, ça me va très bien. Pas besoin de dire mon nom de famille. J'ai 25 ans. Je suis assistante à l'université de Saint-Louis à Bruxelles. Moi, j'ai fait des études de philosophie à Liège et puis j'ai fait un master complémentaire en études de genre. Je suis bisexuelle à tendance lesbienne politique. Je pense que c'est important de le préciser pour la suite, pour mon positionnement à moi. Et je prépare en ce moment un projet de thèse sur des questions lesbiennes à Saint-Louis.
Ok, super. Et donc aujourd'hui, on t'a invité pour participer au débat avec nous, entendre un petit peu ce que les jeunes, les ados ont à dire sur ce sujet et voilà, que tu puisses un petit peu commenter tout ça et donner ton point de vue à toi de chercheuse.
Je suis très contente d'être parmi vous et merci beaucoup pour l'invitation.
Merci à toi d'être là. On va peut-être démarrer avec... un micro-trottoir en étalé, comme on aime bien le faire, ici sur le campus de l'ALMA à Olué, pour recueillir un petit peu la parole de monsieur et madame tout le monde sur ce sujet du patriarcat. Et donc, c'est un sujet réalisé par César, Kelly, Mallory, Gabi, Alejandro et Corentin.
Première question, pour vous, c'est quoi le patriarcat ?
Là, c'est compliqué. Pour moi, c'est quoi le patriarcat ? Je sais pas. Je sais même pas dire, en fait. Sarah, viens m'aider. Le patriarcat, c'est une société, peut-être, où l'homme a plus de... roi sur la femme ou quelque chose, je sais pas, je sais même pas.
Patriarcat, c'est quand l'homme est dominant dans une relation ou une famille, je pense.
Le patriarcat, c'est quelque chose qu'il faudrait commencer à abolir parce que c'est de l'ancien temps. Je ne vois pas en quoi l'homme a plus de prérogatives que la femme. Nous sommes tous des êtres humains et il est temps que cette connerie anachronique se termine.
C'est vaste comme question. C'est quoi le patriarcat ? On va dire l'état qui est gouverné par les hommes, en tout cas à l'époque. Là maintenant, il y a déjà un peu plus de femmes dedans. Donc,
Pour vous, c'est quoi le patriarcat ?
Le patriarcat, c'est quand les hommes sont au pouvoir, quoi. Quand l'homme, en tant que sexe, est au pouvoir, qu'il est au-dessus, on va dire, au-dessus, entre guillemets, de la femme. Mais voilà, quoi. Pour moi, c'est ça, le patriarcat.
Pour vous, qu'est-ce qui fait qu'on est un homme ou une femme ?
Waouh. Oh, mais ça c'est un truc de psychologie, ça. C'est une question de philo. Qu'est-ce qui fait qu'on est un homme ou une femme? Bonne question. Qu'est-ce que c'est d'être une femme? Je sais pas parce qu'il y en a qui te diraient que c'est scientifique, que c'est génétique. Je pense que ouais, en fait ça dépend, je sais pas. Ça dépend comment on voit la chose.
Ce qui fait qu'on est un homme ou une femme, au départ, c'est la génétique. Après, c'est le fait de se sentir bien dans qui l'on est. Donc voilà, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Malheureusement, cette affaire de patriarcat rend à foutre un petit peu le bordel dans tout ça. Il n'y a pas à se battre pour être une femme, il n'y a pas à se battre pour être un homme. On a besoin des deux, malgré les manipulations génétiques. Et donc voilà, et bien que chacun se sente comme il est, c'est-à-dire c'est une identité, et ne pas prendre le pouvoir l'un sur l'autre.
Que pensez-vous de l'égalité homme-femme en Belgique ?
Je pense qu'en Belgique, on n'est pas au pire niveau mondial. Maintenant, il faut voir aussi l'égalité à quel niveau. Il y a énormément de niveaux sur lesquels on peut trouver ou pas de l'égalité. Moi, je parle plus tout le temps en termes d'équité, parce que je pense que les hommes et les femmes sont différents à certains niveaux, jusqu'au niveau biologique, et que donc, quelque part, on se complète. Et donc, je parle d'équité plutôt que d'égalité, qui voudrait dire qu'il n'y a aucune différence entre nous, mais l'équité nous met au même niveau. Voilà, je pense qu'en Belgique, on essaye en tout cas de progresser sur ces questions. Je pense qu'on n'est pas si mauvais.
Que feriez-vous pour changer les choses ?
Qu'est-ce que moi je ferais ? Moi, j'ai pas beaucoup de pouvoir. L'idée, c'est de sensibiliser en tout cas à une réflexion autour de ça. Rappeler que ces questions existent. Et en tout cas, développer un esprit critique. Autour de moi et bien sûr développer le mien aussi, puisque voilà, on n'est pas, je ne pense pas que je suis parfait sur ces questions-là, loin de là. On transmettre.
Pensez-vous que le féminisme atteint son objectif ?
À mon avis, il y a beaucoup de luttes à mener un peu partout, à travers le monde, parce qu'il y a des endroits où les femmes sont vraiment presque des sujets. Et l'homme s'impose en tout et partout, et la femme est dépourvue des droits essentiels.
Que feriez-vous pour changer les choses ?
En fait, on doit donner l'exemple d'abord chez nous, et puis naturellement participer, supporter tous les mouvements visant à l'égalité des hommes et des femmes.
Okay. Oui, par exemple, aux élections, demander qu'au moins 50% des élus soient des femmes. Pas des élus, mais au moins des candidats soient des femmes, ce serait déjà ça, okay. Par exemple. Promouvoir l'égalité homme-femme.
Une dernière question. Est-ce que les influenceurs et les artistes devraient parler de l'égalité ?
Absolument. À mon avis, c'est un sujet qui doit intéresser tout le monde dans une société.
Ils sont fort entendus dans la société, donc ce serait bien. Absolument. Je crois qu'ils en parlent, mais qu'on en parle quand même. Continue d'en parler et encore plus.
Ok. Merci beaucoup pour votre
bon travail.
Eh bien, voilà une belle entrée en matière, hein, n'est-ce pas, César, qui acquiesce de la tête. J'avais envie, du coup, de vous faire réagir un petit peu à ce qu'on vient d'entendre, parce qu'on a évidemment préparé des questions, notamment avec Anouk, qui a préparé l'émission avec nous. Mais j'ai envie de vous faire réagir à ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il faut abolir le patriarcat? Vous êtes tous d'accord avec ça? Maria, alors, qui est à côté de moi.
Dans le micro-trottoir, lorsque j'écoutais les personnes parler, c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont revenues, qui m'ont un peu fait tilter, dans le sens où, une personne qui dit « il y a pire », il y aura toujours pire dans la vie. Il ne faut pas se contenter à dire qu'il y aura pire. Le but, ce n'est pas de jouer un concours avec nos malheurs. Et pour moi, ceux qui parlent du patriarcat comme si c'était quelque chose qui n'existait déjà plus, c'est parce qu'ils ne sont pas confrontés à la situation en tant que telle. Donc, à ma place, moi, je pense que oui, il y a encore beaucoup de choses à faire et qu'on devrait clairement l'abolir.
Gabi, par exemple, qu'est-ce que t'en penses, toi? Il faut abolir le patriarcat, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Pour moi, oui, il faut abolir le patriarcat. Et très fort.
Donc il y a une lutte.
Prenez un marteau et cassez le patriarcat. Voilà.
Ok, César?
Moi, je suis d'accord, ouais, faut abolir, genre, faut en finir. Mais après, je n'aurai pas plus d'avis.
Mais on va donner la parole alors à Marie, notre invitée. J'imagine que tu es plutôt favorable à l'abolition du patriarcat, mais quelles seraient les priorités, les premières grandes choses à faire?
Alors,
rapidement, parce que j'imagine qu'on pourrait en parler pendant...
C'est ça. Évidemment, je suis aussi pour l'abolition du patriarcat, sinon on ne fait pas trop d'études de genre, hein. Enfin, il n'y a plus besoin d'en faire alors. Alors, la question des priorités, elle est un peu essentielle. Moi, je défends un féminisme qui est... parfois, on parle de féminisme intersectionnel, parfois d'imbrication. Enfin, c'est un peu des termes. Voilà, il y a un enjeu dans ce qu'on nomme comme ce type de féminisme. En tout cas, moi, je suis plus dans une compréhension globale des systèmes d'oppression, où il y a le patriarcat et il y a aussi d'autres systèmes. Il y a le validisme, il y a le capitalisme, etc. Et donc, évidemment, la question des priorités, elle est toujours très touchy. Parce qu'en final, on dresse les priorités vis-à-vis de notre position à nous. C'est pour ça que, globalement, moi, j'attends plus... je me positionne plus en écoutant les priorités de chacun et chacune et voir un peu comment est-ce qu'on peut faire pour partir sur une lutte commune qui essaye d'englober le tout, quoi. Mm-hmm. C'est ça, ma position.
Ok. Parce que justement, on a entendu aussi, je voulais faire réagir un peu tout le monde par rapport à ça, on a entendu quelqu'un qui disait « Ouais, mais de toute façon, moi, j'ai pas de pouvoir là-dessus. » Vous êtes d'accord avec ça ou...
Non.
Non,
c'est vraiment bête de dire ça, franchement.
Ouais, pourquoi? Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir, selon toi?
Mais c'est comme les gens qui disent « Ouais, l'écologie, à notre échelle, machin, mais fin, c'est vraiment une excuse pour moi. C'est ridicule de dire un truc pareil. Fin, bien sûr que tu peux changer les choses, que tu sois un homme, une femme, une personne non-binaire ou autre même. Je veux dire, chacun a un impact sur ce qui se passe, déjà, chez les êtres humains, et après, sur ce qui se passe sur l'environnement aussi. Mais bon, ça, c'est autre chose. Donc, les excuses, ça va deux minutes, quoi. C'est bancal.
Ça te met carrément en colère, quoi, d'entendre
oui,
ça.
C'est très chiant.
Ouais.
Voilà.
Ok. Quelqu'un d'autre veut réagir par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on a comme pouvoir, Maria? Tu dirais quoi, toi?
Je pense qu'on peut. Enfin, j'ai pas d'avis très. Moi, je suis pas là en mode ouais, faut qu'on sorte les armes et tout. Pour moi, c'est quelque chose de. Mais dans tout, pour moi. Il faut continuer à parler de ça, parce que carrément, c'est en parlant que ça va changer. Mais je pense que sortir les marteaux ou vraiment s'énerver, je pense que ça ne va pas jouer grand-chose.
Ouais, mais pour te répondre, je disais ça, mais c'est vraiment ironique.
Oui, oui, non, bien sûr, je comprends tout à fait.
Je ne suis vraiment pas là en mode « je vais tuer les gens » et
non,
tout. Non,
non mais tu comprends, je reprenais ton expression parce que j'en ai pas d'autres.
Mais c'est vrai qu'il s'agit quelque part d'une lutte. Donc,
oui, oui. Et moi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en fait, on n'est pas pris au sérieux. À cause de ce genre de comportement. J'ai l'impression qu'on ne pourra pas être pris au sérieux comme ça. Pour moi, ce qu'on pourrait faire, mais après, voilà, c'est à mon niveau, j'ai 19 ans, j'ai pas non plus, et je suis pas non plus connue dans le monde entier, mais le but, c'est pas de crier, mais c'est peut-être d'expliquer comment ça se passe. Enfin, vous voyez, par exemple, je vais prendre l'exemple de Greta Thunberg, mais elle ne crie pas, elle ne va pas casser les trucs ou quoi que ce soit. Ce qu'elle fait, c'est elle fait des discours en expliquant ce qui se passe, en expliquant pourquoi est-ce qu'aujourd'hui le monde va mal. Et moi, je trouve que c'est comme ça qu'on nous entend. C'est pas en clamant que ça ne va pas, que ça changera quelque chose. Mmh. Voilà.
On peut peut-être demander à Marie ce qu'elle en pense. Est-ce qu'on peut se contenter d'une lutte idéologique avec, avec du dialogue, des arguments, ou est-ce qu'à un moment donné, il faudrait, je ne vais pas dire prenez la violence, mais en tout cas des actions, peut-être de désobéissance civile ou des choses comme ça? Qu'est-ce que tu
Alors,
en penses?
Bah, c'est sûr que la question de la technique employée, hein, donc là, il y a vraiment pour le coup les deux, c'est-à-dire, enfin, toi, tu as dit que c'était ironique dans ce que tu disais. Moi, j'étais d'accord avec le marteau, hein, il n'y a pas de souci. Moi, premier degré, moi, hein, il n'y a pas de. Mais, et toi, tu es plutôt dans une posture qui est plus mesurée, d'expliquer, de pédagogie, etc. C'est une tension qui existe au sein du courant féministe, de toute façon. Moi, ma perspective, bon, j'ai dit que j'étais dans une. Comment dire? Dans un. Que j'étais plutôt dans un courant marxiste. Alors évidemment, moi, je suis plutôt...
Du coup, le marteau. Oui.
Voilà, c'est ça. Maintenant, dans les études féministes, la question de la colère, par exemple, parce que tu disais, voilà, ça nous décrédibilise quand on est en colère, quand on crie, etc. En fait, c'est quelque chose qui est aussi analysé d'un point de vue féministe en disant que finalement, le fait qu'on nous renvoie qu'on est en colère et que donc on n'est pas crédible, c'est quelque chose de masculin, en fait, de faire ça. Et qu'en fait, c'est les hommes qui sont dans le contrôle, alors que les femmes seraient justement dans l'émotionnel, enfin, tu sais, dans l'émotionnel, dans les pulsions. Et donc, que finalement, on peut revaloriser la colère, et qu'en fait, la colère, parfois, elle peut être légitime, et elle peut amener à quelque chose de mieux aussi, quoi. Mais voilà, il y a des deux, les deux stratégies, et parfois, il faut un peu... Ça dépend aussi des contextes. On ne peut pas toujours être dans l'un, ni toujours être dans l'autre, je pense.
Mmh. Ok. Du coup, comment ça se passe, l'égalité des genres? Au sein de la génération d'aujourd'hui, des adolescents d'aujourd'hui, est-ce que vous diriez qu'il y a du changement par rapport aux générations précédentes, ou bien est-ce qu'on sent encore vraiment fort le poids des traditions de l'époque où les hommes étaient tout puissants, parce que voilà, c'était un peu comme ça avant. Qu'est-ce que vous en diriez?
La rue. Un gamin. Ben, on le sent clairement dans la rue. Enfin,
ah, oui.
Oui, ouais, ouais. Voilà.
Je me souviens, c'est pas cool.
On n'a qu'à sortir dans la rue l'été ou ouais. Aller sur TikTok et se rendre compte qu'aujourd'hui, on n'arrête pas de rappeler aux hommes que ce n'est pas parce qu'on met une jupe que c'est une invitation. Et je trouve ça un peu... Certaines choses ont évolué et je dis c'est très bien, mais encore beaucoup de choses doivent changer.
Mmh. Alejandro, t'en penses quoi, toi, dans la génération des ados d'aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du changement par rapport aux générations précédentes sur ces questions-là?
Moi, je pense que oui, parce que quand je sors dans le transport et tout, je vois beaucoup d'hommes majeurs qui commencent à regarder les filles qui passent, spécialement cet été. Et moi, ça me fait chier, parce que je dis, il y a beaucoup de gens de notre génération qui ne font pas ça, parce qu'ils comprennent la douleur de l'autre personne. Il y a aussi autant de jeunes qui ne comprennent pas, et ils font ce qu'ils veulent. Mm-hmm. Mais que ça change, oui, je trouve que ça change un peu, et je trouve que c'est bien.
Mm-hmm. Donc tu observes les comportements des générations d'au-dessus de toi qui sont parfois incorrects et tu as l'impression que c'est des comportements qu'on voit moins chez les jeunes parce que les jeunes auraient compris que ça ne se fait pas ou...
Ouais.
Ok.
En fait, évidemment, c'est les générations majeures qui font ça. Il y a toujours quelqu'un dans toutes les générations qui vont faire ça. Mais aussi, quelque chose qui m'a choqué avec le plateau de voir, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de gens qui connaissaient la patriarcat. Et je suis d'accord avec ça, l'éducation, parce que c'est vraiment important d'expliquer aux gens de toutes les générations qu'est-ce que c'est, parce que ça, voilà, ça a une importance.
Mais je pense pas que dans le micro-trottoir, je pense pas que les gens ne savaient pas ce qu'était le patriarcat en tant que tel, parce que les choses ont évolué. Je pense plus que c'est parce que c'est un sujet qui a été tabou pendant tellement longtemps qu'on n'a pas vraiment... En fait, certaines générations n'en ont jamais entendu parler jusqu'à ce qu'on se dise « Ok, là, il y a un problème. » Donc, c'est pas que ça a évolué et donc les gens ne savent plus ce que c'est. C'est plus les gens à qui on a demandé, ben, c'est des gens qui n'ont pas connu ça dans leur jeunesse où on leur a pas expliqué ce que c'était. Moi, je pense que c'est plus pour ça que les gens ne le savaient pas.
Ok. Écoutez, ben, je vous propose justement, pour en savoir un peu plus, peut-être d'un point de vue... social, d'un point de vue théorique, d'écouter ben, l'interview réalisée par Maria, l'interview du docteur Jasper Van Asch, c'est bien ça Maria, que tu as été rencontré à l'ULB. On écoute ça tout de suite.
Bonjour, je suis Jasper Vanasse, je suis enseignant à l'ULB et je suis aussi chercheur en psychologie sociale et dans le domaine de la psychologie politique. Donc je fais des études scientifiques et je donne des cours aussi.
Alors la première question que je vais vous poser du coup c'est si vous pouvez un peu nous expliquer dans les grandes lignes ce qu'est le patriarcat et en quoi notre vie aujourd'hui en est impactée.
Oui, donc le patriarcat c'est défini dans la psychologie sociale comme un système au niveau de la société où les hommes ont presque tout le pouvoir ou presque toutes les positions dominantes.
Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on vire plutôt d'une société patriarcale à une société matriarcale? Et est-ce que vous pensez aussi que le féminisme a joué un rôle là-dedans?
Oui. Les dernières années, on voit quand même beaucoup d'actions collectives, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes qui vont dans la rue pour protester et pour essayer de changer ce statu quo et pour mettre en règle l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc je pense que le féminisme a déjà changé beaucoup et on a fait des pas vers l'égalité qui sont vraiment pas négligeables, mais le chemin est encore loin. Comme on dit, pour moi, le féminisme, c'est le mouvement qui essaye de reconstruire l'égalité entre les hommes et les femmes. Et donc, je pense que c'est vraiment bien qu'il y a aussi des hommes qui sont des alliés dans la lutte pour l'égalité. Et donc, je pense que les deux ensemble rendent le message encore plus fort pour dire vraiment, ok, on arrête ici, on a marre de l'inégalité et on veut l'égalité. Le sexisme n'est pas lié au genre, soit l'homme ou femme. Je pense que le féminisme aussi n'est pas lié vraiment au genre, c'est une attitude individuelle.
Donc aujourd'hui on parle d'un double standard. Un double standard qui est considéré comme invisible, c'est donc tout ce qui est au niveau des inégalités, qui est donc les inégalités avec les femmes. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui au niveau des femmes battues, des femmes qui se font agresser dans la rue, etc. On le considère comme invisible aujourd'hui parce qu'on fait comme si on n'entendait pas parler de tout ça.
Okay.
Comme si voilà, c'était quelque chose, on doit à tout prix ne pas en parler. Mm-hmm. Et donc aujourd'hui, ce double standard est considéré comme invisible. Est-ce que vous pensez que grâce au féminisme, il va changer d'adjectif? Donc il va passer d'invisible à peut-être visible?
Oui, oui. Peut-être que je vais commencer par parler un petit peu des théories psychologiques qui font que les gens, les femmes mais aussi les hommes, ont envie de garder, maintenir le statu quo. Donc c'est vraiment le monde social, c'est compliqué, il y a beaucoup d'infos. Et donc une des choses qu'on fait, c'est vraiment faire des catégories strictes et lier des stéréotypes à ces catégories. Donc par exemple, l'homme, il doit être dominant, il doit être compétent, il doit être capable de gagner beaucoup d'argent, tout ça. Et la femme, dans notre stéréotype par exemple, doit être chaleureuse, elle doit prendre soin des enfants et d'autres. Et donc, ces deux stéréotypes ensemble font que ça ne bouge pas trop vite. Pour revenir à votre question, le fait que les femmes, par exemple, sont discriminées plus que les hommes est ignoré. Pourquoi? Parce que ces infos nous rend à changer nos attitudes. Donc, c'est plus facile d'ignorer ces infos que de changer nos propres attitudes. Et c'est ça, quand on parle du patriarcat et quand on parle du double standard, quand on parle de la discrimination, là, on voit des attitudes vraiment hostiles, mais il y a aussi des attitudes plutôt bienveillantes. Et là, on voit par exemple des stéréotypes de que l'homme qui est le chevalier qui prend soin de sa femme ou la femme de l'inverse qui est vraiment chaleureuse et tout ça. Donc les deux types sont connectés bien sûr, mais les deux ensemble font que ce double standard est encore mis en place et est très très difficile à changer. Okay. Ben, on a le système dans la société, mais en même temps dans nos têtes, au niveau individuel, des valeurs, des attitudes qui sont difficiles à changer. Et tous les deux, l'individu, mais aussi le contexte, la société, font que y a beaucoup de conséquences sur notre bien-être, notre estime de soi. Et la masculinité toxique est une des conséquences, je pense, du fait que la patriarcat est là au niveau sociétal et les individus qui habitent dans la société suivent les règles de ce type, de ce système.
Selon vous, est-ce que toutes les femmes sont opprimées de la même manière par le patriarcat?
Tout dépend de la perception et de ce qui se passe dans notre tête, dans notre cognition, dans notre les émotions que ça peut évoquer. Donc la façon dans laquelle nous percevons les inégalités peut avoir des conséquences ou peut faire que les conséquences sont pas pareilles. Donc je pense que les effets sont là, mais notre interprétation peut être vraiment différente et ça peut être que quelques femmes ont l'impression que tout va bien et d'autres ont l'impression que vraiment c'est pas le cas et donc ces différences peuvent expliquer pourquoi le féminisme par exemple n'est pas endorsé de même façon parmi tout le monde ou parmi toutes les femmes par exemple. Je trouve que de plus en plus des personnes ont vraiment plus de connaissances du féminisme et d'inégalités historiques qui se continuent aujourd'hui. Et donc comme ça, pas par pas, on est en train d'évoluer, mais ça ne va pas vite, malheureusement.
Oui, c'est ça. Merci beaucoup
je vous en prie.
De nous avoir accordé cette interview.
Voilà, on est de retour dans Radio Clash avec notre débat sur le patriarcat. La question que j'avais envie de vous poser maintenant, c'était voilà, quelles sont les traces, les principales traces encore visibles justement de ce patriarcat dans notre société, peut-être au sein des familles aussi. Quelles sont les principales choses qu'on observe encore, les marqueurs du patriarcat en quelque sorte? Et j'ai envie de demander peut-être d'abord à Marie ce qu'elle, elle a identifié. La liste est longue, sans doute.
La liste est très très longue, oui, de fait. Mais ça dépend comment est-ce qu'on prend. Alors là, le prisme, c'est plutôt au sein de la famille. Alors au sein de la famille, moi, j'ai pas mal travaillé sur donc, des féministes matérialistes, notamment Christine Delphi, voilà, j'ai dit le nom comme ça, qui en fait est la théoricienne principale du concept de travail domestique. Et donc, c'est l'idée, en fait, que les femmes vont, au sein du foyer, effectuer, en fait, un travail gratuit pour... Alors, à l'époque, elles parlent de leur mari. Maintenant, ça s'applique aussi aux couples hétérosexuels non mariés. Et donc, ça inclut, évidemment, le travail vraiment ménager au sens des tâches ménagères classiques. Mais ça inclut aussi tout un travail, notamment les femmes d'indépendants qui vont faire leur comptabilité. Parfois, des femmes d'artisans qui vont aussi, en fait, être artisanes. Donc, je crois qu'il y a effectivement des traces qui sont encore très visibles. Si on reprend juste le prisme de la famille, c'est sûr que c'est très visible. Et puis, on peut étendre ça à plein de choses. On peut étendre ça à l'éducation des enfants, aux tâches ménagères dont on a déjà parlé. À quel type de tâches ménagères est-ce que les uns et les autres font? Et puis, en cas de divorce, enfin bon, bref, il y a plein de choses qui restent encore à dire et à déconstruire au sein de la famille, je pense.
Mmh. Ok. Au sein, vous, de vos familles, par exemple, est-ce que vous trouvez qu'il y a encore des traces de ça Gabi va encore dire, c'est toujours moi qu'on interroge, mais je vois que tu souris, donc j'ai envie de te faire réagir.
Je suis quelqu'un de très expressif au niveau du faciès, voilà. Mais oui, et c'est pas qu'une question de génération, c'est aussi une question de culture un peu quelque part, parce que j'ai beaucoup d'origines, vu que... Mm-hmm. Ouais, bref, je vais pas expliquer, mais dans ma famille, il y a des influences de la culture asiatique, plus particulièrement chinoise. Et c'est clair qu'il y a des trucs, ça se voit que c'est... Ça vient de là-bas. C'est bizarre ce que je suis en train de dire, culturel. Mais l'héritage culturel, il se sent. C'est... je ne peux pas dire que c'est un féminisme différent, mais c'est une manière d'agir qui est encore différente que la manière européenne, quoi. C'est ça. Bon, ici, c'est parce qu'on est en Europe, mais sur tous les continents et dans tous les pays différents, il y a une manière différente d'agir, Ça dépend aussi de l'ethnie de la personne et tout, parce que, bref.
Moi, sur la famille, j'ai des choses à dire. Pour moi, la famille influence clairement comment est-ce qu'on va se comporter au jour le jour. Et moi, je fais partie d'une famille dans laquelle, mon papa n'est pas une personne très jeune. Et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, on met beaucoup ça sur la génération, dans le sens où lorsqu'il va dire quelque chose qui n'est pas correct à dire, ma maman va me répondre « oui, mais il fait partie d'une génération différente ». Pour moi, ça, c'est encore quelque chose qui n'est pas correct, parce que le fait de
faire des... Pour toi, ce n'est pas une excuse.
Alors. Voilà, pour moi, ce n'est pas une excuse. Pour moi, il faut évoluer avec son temps. Et le fait, quand sa fille met un short, de dire « non, tu vas te changer, je refuse que tu sortes en short », alors que ce n'est pas non plus quelque chose de... Voilà, pour moi, ce n'est pas quelque chose de correct. Je comprends qu'à son époque, c'était différent, mais il faut évoluer avec son temps. Voilà.
Rachel, on t'a pas encore entendu.
Alors, je ne sais pas du tout, parce que dans ma famille, c'est pas qu'on fait attention à ça, mais... comme il n'y a pas de problème exactement dans ce...
Personne ne se plaint de ça.
Non, parce que c'est pas quelque chose... c'est pas quelque chose de pas important, mais juste, c'est pas un problème grave dans notre famille.
C'est pas quelque chose qui crée des obstacles dans votre vie quotidienne. Donc,
Non.
Il n'est pas ressenti comme tel. J'avais envie de demander aussi, est-ce que au sein de l'école, l'école en général, vous avez l'impression qu'il reste aussi des discriminations garçons-filles, par exemple, puisque vous êtes quand même tous concernés par ça, vous êtes en âge d'obligation scolaire. Lucie ?
Moi, personnellement, dans mon ancienne école, j'avais pas trop cette impression-là. Mais après, je pense que ça dépend de chaque école. Et voilà.
T'avais l'air d'accord, Maria.
Oui, je suis d'accord. Mais moi, par exemple, j'ai été dans une école en uniforme jusqu'à mes 15 ans. Et on nous faisait bien rappeler que les mecs n'avaient pas le droit de porter de shorts parce que ça risquait d'exciter les filles. C'était ce qui était clairement dit par nos éducateurs, donc voilà. Ou alors, on n'avait pas le droit d'avoir une jupe qui arrivait un peu au-dessus du genou. C'était quelque chose qui n'était pas autorisé, parce qu'encore une fois, en montant les escaliers ou quoi que ce soit, on peut choquer certains regards. Aujourd'hui encore, l'année dernière, j'ai eu le coup avec une prof qui m'a pris mon journal de classe parce que j'avais un t-shirt. Il faisait 26 degrés, je pense. Il faisait chaud. Et elle m'a pris mon journal de classe parce qu'on voyait mes épaules. Et parce que pour elle, ce n'était pas correct qu'on voit mes épaules au sein de l'établissement scolaire. Et elle m'a dit, normalement, dans la rue, tu te ferais arrêter par ça. Donc voilà, pour moi, il y a des choses qui...
Qui ne vont pas du tout, quoi.
Voilà, exactement.
Ok. Les autres, ça vous parle aussi Gabi, toi, tu as vécu des choses comme ça à l'école où tu t'es dit, là, il y a un truc par rapport à la question.
Je suis passée par... deux écoles qui sont quand même assez élitistes, quand même, qui sont très élitistes du coup.
Traditionnelles.
Ouais, voilà, c'est très traditionnel, très catholique. Bon,
le mot est lâché.
Ça fait pas trop rêver, quoi. Par exemple, en primaire, moi, je portais des jupes et j'aimais bien les pantalons aussi. Je trouvais ça plus confortable. Et on faisait la remarque tout le temps. Ah, mais tu portes des pantalons, oui, mais c'est pas bien et tout. Et en plus, c'était des pantalons leggings, des trucs nouveaux. Donc, du coup, les profs, ils appréciaient pas du tout.
Donc, c'est les profs carrément qui faisaient des
remarques. Ouais, les profs, les surveillants dans la cour, parce que je restais à la garderie. Je m'asseyais par terre et j'avais les jambes un tout petit peu écartées ou pas du tout. Je veux dire, il n'y a rien de bizarre, quoi. Je m'assois juste et on me fait « Oui, ferme tes jambes, on va voir ta culotte et tout. » Enfin, moi, ça me... Je vais pas mentir, je vais pas mâcher mes mots, mais ça me cassait vachement les burnes. Voilà. Oui, il y a beaucoup de trucs comme ça. Et enfin, oui... là, j'ai plus trop d'exemples parce que je suis un peu à sec, mais...
Mais ça, voilà, tu te sens concerné par la, par la question. Ok. Oui, donc à présent, nous allons passer à la chronique de Chimène. Chimène, je pense que tu vas nous parler de manga et de manga en lien avec le sujet du jour, le patriarcat.
Oui, exactement. Aujourd'hui, je vais vous parler de Nana. Du coup, c'est un shoujo. Et du coup, ça parle du féministe dans cette œuvre.
Ok. Un shoujo, c'est quoi ?
Alors, en résumé, c'est une romance destinée à un public de jeunes filles. Sauf qu'ici, du coup, c'est très mature et c'est réservé à tout public. Et du coup, actuellement, il a 21 tomes, donc sur 22. Donc, il est actuellement en pause. Et du coup, il existe aussi une adaptation d'animé,
ouais.
Du coup, qui comporte 47 épisodes, mais ça va jusqu'au tome 12. Donc par la suite, il faut acheter le manga.
Ok. Et l'auteur, je pense, de ce manga est quelqu'un d'intéressant. Le mangaka, c'est comme ça qu'on les appelle.
Oui, exactement. Donc, Eizawa est du coup une mangaka. Donc, elle est née le 7 mars 1967 à Osaka. Et donc, si A est son vrai prénom, Wazawa n'est pas du tout son prénom, donc c'est un nom d'auteur. Elle l'a choisi en référence à Yukishi Wazawa, donc c'est un chanteur de rock japonais très populaire, justement.
Qui date, je pense, des années 80, c'est ça, enfin, qui était en tout cas actif dans les années 80,
oui, hein,
qui a
exactement.
Eu son succès à ce moment-là. Je propose qu'on écoute un petit extrait, d'ailleurs, de Yukishi Yazawa, si j'arrive à le prononcer. Gonna be trouble, it's getting out of hand. Gonna be trouble, but baby, I'm the man. I'm gonna save you. I'll be your knight. I'll be your savior. Help him tonight. Yeah. Gonna be trouble, baby, I'm a trouble man. Wanna find a come on? Don't you understand? Voilà, c'était Yukishi Yazawa, l'auteur, enfin non pas, qui n'est pas l'auteur, mais dont le nom a inspiré Ai Yazawa, l'auteur du manga Nana. Et donc, Chimène, de quoi ça parle concrètement, ce manga Nana ?
Du coup, Nana, ça parle du coup de deux jeunes filles, donc âgées de 20 ans. Donc, l'histoire tourne autour d'elle et elles possèdent tous les deux le même prénom, donc Nana, donc référence au titre. Dans un premier temps, Nana Osaki, donc l'une des deux jeunes filles, elle est décrite comme indépendante qui veut suivre ses propres projets. Alors que Nana Ashi, son seul objectif est d'avoir une famille et en fait, elle est prête à tout pour ça. Et ce, peu importe ce que les hommes vont lui faire subir, que ça soit le viol conjugal, que ça soit du coup les horreurs qu'elle peut subir au niveau des hommes. Et du coup, je trouve qu'on n'en parle pas assez et du coup, ça en fait un manga féministe à mes yeux.
Ok. Ça parle de aussi un peu, j'imagine, du coup du Japon et de l'aspect assez traditionnel de la société japonaise.
Oui, exactement. On retrouve surtout des références un peu rock et du coup un petit peu des années 60, 80. Et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup parce que ça fait partie du style de l'auteur, donc de la mangaka.
Ouais.
Et en fait, c'est ce que j'aime énormément. Et même à travers du coup les hommes, donc les personnages un peu secondaires. Ils sont là, mais ils ne sont pas aussi imposants que les deux jeunes filles qui sont très présentes.
Ouais, elles ont vraiment, elles prennent la place centrale dans l'histoire. Ok. Eh ben, merci beaucoup, Chimène, pour cette recommandation. Donc ça s'appelle Nana de Ai Yazawa. Et donc tu nous recommandes de nous faire toutes les 22 tomes.
Oui, ça exactement. Vaut la peine. Oui. Du coup, les 21.
Oui, parce que le 22e n'est pas encore sorti.
Oui.
Voilà, merci Chimène.
Oui, j'avais envie de vous lancer une autre question. Est-ce que vous pensez du coup qu'une société matriarcale, donc le contraire d'une société patriarcale, ce serait mieux? Est-ce que ce serait la solution, une société matriarcale?
Je trouve que quand une de deux, on va dire des deux sexes, comme femme et homme, a les pouvoirs sur l'autre, c'est là où ça se casse. Il ne devrait pas être comme ça. Ça devrait être égal, vraiment égal, quoi.
Mm-hmm.
Le même travail, si tu as le même travail, même paye, même et tout, tu vois. Sinon, ça va redevenir comme la même chose avec le patriarcat.
Mm-hmm. Oui, mais c'est parce que parfois, on entend certaines personnes dire de par nature, je dis bien, voilà, c'est pas mon propos à moi, les femmes sont moins dominantes, moins autoritaire, et que donc on aurait tout intérêt à faire pencher la balance du côté des femmes pour que voilà, un équilibre soit trouvé. Qu'est-ce que t'en penses, Marie?
Moi, ce que j'en pense, c'est que je vais encore faire du name dropping, mais c'est-à-dire citer des noms comme si je devais les checker dans ma liste. Mais c'est parce que c'est important pour moi de montrer mon ancrage et des théoriciennes desquelles je me sens proche. Et en fait, sur la question du matriarcat, Monique Wittig, qui est donc une autre féministe matérialiste, lesbienne pour le coup, et qui a beaucoup travaillé la question du lesbianisme, elle a dit « le matriarcat n'est pas moins hétérosexuel que le patriarcat ». Et donc, en fait, Wittig, elle attaque, plus que le patriarcat, elle attaque une espèce de structure qu'on pourrait appeler hétéropatriarcat. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, renverser la domination, ça restera toujours une domination.
Mmh.
Et qu'il faut aller vers autre chose. Et évidemment, c'est terrifiant, parce qu'on ne sait pas ce que c'est l'autre chose, puisqu'on n'a jamais expérimenté ça encore. Mais moi, c'est plutôt, c'est-à-dire ma position, c'est plutôt ça, c'est qu'effectivement, on peut pas, enfin, je veux dire, il suffit pas d'inverser les termes de la domination pour que ça aille mieux, quoi. Mm-hmm. Il faut viser autre chose.
Mais du coup, oui, est-ce qu'une société sans pouvoir, où le pouvoir est parfaitement au milieu, est-ce que c'est possible? C'est un peu...
Possible, je sais pas, souhaitable peut-être. En tout cas, c'est ce vers quoi on essaye de tendre de plus en plus, et c'est ce vers quoi les études de genre essayent de tendre aussi, quoi.
Ok. Bon, il est l'heure qu'on écoute la chronique de Lucie. Alors Lucie, qui est avec nous aujourd'hui, elle nous a préparé un petit sujet autour de l'héritage du patriarcat dans la musique d'aujourd'hui. Parce que c'est un thème qui revient très souvent chez les artistes contemporains qu'on connaît tous. Lucie, de quoi tu vas nous parler exactement ?
Aujourd'hui, je vais vous parler de trois artistes musicaux qui ont fait des chansons ou juste simplement un seul couplet qui parle soit du patriarcat, soit des violences conjugales envers les femmes. Et je pense que c'est aussi une sorte de patriarcat.
Mmh. Le premier nom
C'est une chanson de Luigi Pekka qui s'appelle « Deux âmes ». Et en fait, c'est toute la chanson qui parle... d'un homme qui bat sa femme. Voilà.
Pas très joyeux, quoi.
Non.
Mais c'est une réalité. On va écouter cet extrait tout de suite.
Qu'est-ce qu'il est fort? Quand il frappe, il sait y faire. J'y vois presque un brin de douceur. Car moi, je ne sens plus la douleur. Nico, tout le monde adore. Donc c'est sans doute moi qui exagère. Si Nico m'a volé mon corps, c'est qu'il m'aime.
Quand il dit qu'est-ce qu'il est fort, quand il frappe, il sait y faire. J'y vois presque un brin de douceur, car moi je ne sens plus la douleur. Je pense qu'il veut dénoncer la violence quotidienne, et même qui est même devenue une routine, et même devenue normale aussi.
Oui. Et ce qui est particulier, si j'ai bien compris, donc c'est que là, l'UJPK, c'est un mec, mais il se met dans la peau d'une femme.
Ouais.
Super.
Puis ensuite, c'est deux chansons de Aurel San.
Oui, Aurel San. Bon, ça, je connais.
Ouais.
Sans blague.
La première, c'est Tout va bien. C'est l'une de ses chansons les plus connues. Et c'est juste un couplet qui parle plus ou moins de la même chose que la première chanson de l'UJPK.
Si la voisine crie très fort, c'est qu'elle a pas bien entendu. Si elle a du bleu sur le corps, c'est qu'elle a joué dans la peinture. Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. En attendant les jours de pluie, elle met ses lunettes de soleil.
Quand il dit... Et si un jour elle a disparu, c'est qu'elle est partie en lune de miel. Je pense qu'il veut exprimer le fait que son mari l'a tellement violentée qu'elle est décédée ou même juste partie. Mm-hmm. Voilà.
On peut faire plusieurs hypothèses hein, sur cette phrase-là, ouais, mais bah ouais. Oui. La plus terrible, c'est sans doute celle-là.
Ouais,
quoi.
Sûrement. Et puis il y a une chanson qui est un peu. Enfin, on n'entend pas souvent parler de ce sujet-là. C'est aussi une chanson d'Aurel San qui parle du sexisme et qui s'appelle La petite marchande de porte-clés.
Sa mère voulait attendre et la marier. Son père voulait la pendre ou la noyer. Un seul enfant par foyer. Il voulait un garçon, mais sa connasse de femme a fait le taf qu'à moitié. À la campagne, on a besoin d'hommes forts pour travailler. Pas d'une bouche à nourrir, pas d'une pisseuse bonne qu'à chialer. C'est presque impossible de vivre à trois. Une fille unique, c'est perdre son nom de famille. C'est la honte pour un villageois. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'un déchet humain? Lui éclater le crâne entre deux pierres, l'enterrer à côté du chien. Il partit emprunter une pelle chez son voisin. Mais son voisin lui dit d'attendre. Il lui dit qu'il pourrait la vendre. Et la chance leur sourit. Un marchand leur proposa d'acheter l'enfant pour la vendre à des touristes. Ils l'ont lâché pour environ un tiers de SMIC français.
Du coup, c'est un peu cru.
Oui, hein. C'est assez violent ce qu'on entend.
Et du coup, en gros, c'est une. Bah, je pense qu'en fait, on l'a compris, l'histoire de cette chanson. Et voilà. Fin...
Mais ce qu'on peut se demander, c'est. Parce que oui, Aurel San, mais il a d'ailleurs eu quelques petits soucis à une certaine époque, parce qu'il utilise quand même des termes extrêmement violents qu'il associe ici encore à une fin, à la condition féminine, au fait d'être une femme. Et alors même s'il le fait pour le dénoncer, le fait de coller ensemble, c'est, enfin, voilà, des propos très durs, enfin, voilà, on peut se poser la question... Est-ce qu'il ne participe pas à reproduire quelque chose de violent envers les femmes, alors que c'est évidemment pas son intention, au contraire, dans cette chanson. Mais oui, on peut se poser cette question. T'en penses quoi, toi, Lucie ?
Moi, je pense que le fait qu'il utilise des termes très durs et crus, c'est justement pour sensibiliser les gens, vu que je pense que les personnes qui pensent réellement ce qu'il dit... Bah, il le pense comme ça et dit comme ça, ça fait encore plus réfléchir.
Il veut vraiment nous secouer, quoi, pour
je
toi.
Pense.
C'est ça l'idée. Ok, et donc le dernier extrait que tu nous as sélectionné.
Un classique, c'est Angèle, balance ton quoi. Et c'est carrément devenu un hashtag sur Twitter pour dénoncer les comportements déplacés des hommes. Et voilà.
Je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah, faudrait peut-être casser les codes d'une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi. Même si tu parles.
C'est devenu un hymne, cette chanson.
Ouais, presque. Bah oui. Je pense que dans le refrain, quand elle dit « balance ton quoi, un jour peut-être ça changera », je pense que elle espère, enfin, elle veut dire que, genre, en dénonçant le comportement parfois déplacé des hommes,
ça les fera réaliser.
Bah, ça changera peut-être un jour.
Chose.
Et voilà.
Ok, donc ce serait. Une chanson d'espoir, en quelque sorte. Quoi. Marie, toi, tu penses quoi du fait qu'il y a quand même de plus en plus d'artistes qui mettent cette thématique en avant?
Mais je vais juste réagir à ce que Lucie vient de dire par rapport à... comment dire, peut-être que ça changera si on en parle, etc. Mmh. En fait, on se rend compte, surtout depuis la vague MeToo hein, qui a eu lieu il y a quelques années, on entend beaucoup le poncif de « la parole se libère ». Le problème, c'est que en fait, la parole, elle était libérée depuis très longtemps, c'est simplement qu'elle n'est pas audible, en fait. Mmh. Et toujours aujourd'hui, là, on voit, donc du coup, il y a eu la vague MeToo, et en fait, là, on commence à avoir du coup les premiers procès qui ont commencé pendant cette période-là, où finalement, ben voilà, la parole s'est libérée, et à nouveau, elle n'est pas audible. Ça qui est un peu, alors c'est très déprimant, hein, je suis désolée, c'est moins joyeux que la chanson d'Angèle, que j'aime beaucoup par ailleurs, mais effectivement, il y a quand même ce côté-là où on dit que c'est un peu décevant, quoi.
D'accord. Eh ben, à présent, on va écouter une petite fiction en plein dans notre sujet et qui a été réalisée par Gabi, Alejandro, Kelly et moi-même, on peut le dire. On écoute ça tout de suite.
Coucou loulou, devine quoi? Ce soir on fait péter le champagne.
Ah bon?
Oui, j'ai une super nouvelle. Tu devineras jamais.
Ah bon?
On m'a proposé un nouveau poste de manager. Non mais tu te rends compte? Je vais être à la tête d'une équipe de 30 personnes. Voiture de fonction, iPhone, MacBook Pro et tout le truc quoi.
Ah oui, non, mais c'est génial. Et le salaire, c'est combien?
Oh, j'ose même pas te le dire, tu vas pas y croire.
Chouchou aussi, dis-moi, allez.
Bon, ok, je vais gagner le double de toi.
Ah ouais.
Bah quoi, t'as pas l'air content? T'es jaloux ou quoi?
Ah mais non, pas du tout chouchou, c'est super vraiment, félicitations.
Allez, hop, j'ouvre le champagne.
Oui, allô, j'écoute.
Bonjour, ici Monsieur Martin de l'entreprise Waka Waka. Je vous appelle pour une raison un peu particulière.
Oui, je vous écoute.
C'est au sujet de Madame Scarlett McKenzie.
Oui.
J'ai appris que vous lui avez proposé un poste de manager dans votre entreprise et il s'est fait que je suis son ancien employeur.
D'accord.
Je n'aime pas trop faire ça, mais je pense que c'est important de vous communiquer ces soucis d'absence répétés par cause de diarrhée et de détournements de fonds.
Des détournements de fonds? Eh bien, je vous remercie, monsieur. Dans ce cas, je ne la recruterai pas. Bonne soirée.
Je vous en prie, j'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi aussi. Bonne soirée. Bah alors, chouchou, ça va pas? Tu fais une drôle de tête?
Bah, écoute, au final, j'ai pas eu le poste, là, de manager.
Ah, c'est dommage, tu aurais d'autres opportunités.
Ouais, mais en fait, j'ai pas fini, hein. Tu devineras jamais qui j'ai croisé au café en bas l'autre jour.
Ah oui, qui ça?
Ben, j'ai croisé Bobby.
Hein, Bobby?
Mais oui, Bobby Bob, ton boss. Ah bah ben, devine quoi? On a discuté et tu m'avais pas parlé du poste de chef, chef d'équipe qui était disponible chez vous.
Oui.
Ah bah ben, justement, Bobby Bob m'a proposé de postuler. Et devine quoi? Eh ben, je suis prise!
Bah, attends quoi?
Quoi? T'es tout pâle? Ça va pas?
Non, ça va, je suis content pour toi.
Mais tu te rends compte? Je vais être ta nouvelle chef. On se verra tous les jours au boulot. C'est trop chouette, non? Allez, il nous reste du champagne?
Donc, retour dans Radio Clash, l'émission des jeunes de l'entrelien, et notre sujet du jour, le patriarcat à abolir. C'est un peu la dernière partie du débat qu'on entame maintenant, et donc j'avais envie de vous poser comme question, est-ce que la société, elle pourrait un jour devenir complètement égalitaire? Est-ce que ça vous semble quelque chose de l'ordre du possible ou pas du tout? Est-ce que vous vous voyez dans une société égalitaire quand vous serez adulte, par exemple?
Pas tout de suite. J'ai l'impression, enfin, je suis pas encore, enfin, voilà, je, j'ai pas encore eu accès à tout ce qui est réellement accessible, on va dire, dans le monde adulte. Donc moi, j'ai pas encore pu voter ou des choses comme ça, j'ai pas encore vu tout ça. Mais moi, j'ai l'impression que même en étant moins adulte, plus tard, la société ne sera pas encore complètement égalitaire. Peut-être que nos enfants ou nos petits-enfants connaîtront quelque chose qui se rapprochera au maximum de ça. Mais pour le moment, il y a encore des choses qui doivent évoluer. Donc, je ne le vois pas venir dans 10 ans, quoi. Mmh. Voilà.
Lucie ?
Moi, je ne pense pas. Parce que il y aura toujours des gens qui seront contre. Il y aura toujours des gens qui seront pas du même avis que les autres. Et du coup, ça faussera un peu le truc.
Mmh. Des gens qui seront pas du même avis, tu veux dire, est-ce ouais. Qu'au sein des...
Bah, il y aura des gens qui seront toujours là en mode oui, le patriarcat, c'est génial.
Mmh. Ou ils ne le diront peut-être pas comme ça, oui, mais non, ce sera l'idée quoi, derrière. Ouais. Ok, donc tu penses qu'on n'est pas prête à abattre, à abolir
je sais pas trop.
La chose. Ouais. Mais... Alejandro ?
Je pense que c'est faisable si on fait vraiment l'effort de deux côtés, mais sinon, si on ne fait pas l'effort, je pense qu'on ne va pas y arriver. Mm-hmm. Pas tout de suite en tout cas. Mm-hmm.
Donc il y a des efforts à accomplir.
Il y a beaucoup d'efforts à faire, mais...
Au niveau individuel ou au niveau collectif ou...
Individuel et collectif. Je pense qu'en famille, les parents devraient éduquer bien leurs enfants. Et après, même en collectif, on devrait tous en parler et tu vois, arriver à quelque chose d'égal.
Rachel ?
C'est pas très joyeux de dire ça, mais je pense que, comme Lucie a dit, y aura toujours des gens qui seront pour, mais... Enfin, je veux dire, il y a des gens que ça arrange le patriarcat et donc... Je pense que ces gens-là, ils aideront pas à ce que ça change. Et donc, c'est pour ça que je pense que... je pense que ça ne changera pas tout de suite et qu'il y aura peut-être même toujours quelque chose à changer. Mmh.
Gabi ?
Franchement, je vais être aussi un peu pessimiste, hein, mais... Il y aura toujours des gens pour en tirer profit, il y aura toujours des sales opportunistes pour un peu être embêtant et faire « non, vous ne l'aurez pas ». Donc, je dis ça un peu ironiquement pour rendre les choses un peu moins trash, mais franchement, j'y crois pas trop. J'y crois pas trop, mais bon, j'y crois un peu quand même parce que
l'espoir
on aime
fait
y croire. Voilà, l'espoir fait vivre, c'est très important. Voilà.
Kelly, tu veux dire quelque chose, toi ? Comment tu vois les choses dans... Comme tu veux.
Je suis assez d'accord avec Gabi et aussi avec Maria. Après, je pense honnêtement que ce sera quand même compliqué d'avoir une société totalement égale, quoi. Que ce soit pour les hommes, que ce soit pour les femmes ou les personnes non-binaires, etc., etc. Je pense que dans la vie, enfin, c'est pas pour jouer ma philosophe ou quoi que ce soit, il y aura toujours des inégalités. Donc, évidemment, j'ai envie que ce soit le cas. Après, est-ce que ce sera possible ? Ça, c'est une autre question.
Mmh. Ok. Marie,
ben oui.
On te laisse conclure. Voilà, une société égalitaire, est-ce que c'est de l'ordre du possible ? Est-ce qu'on s'en approche ou est-ce qu'on s'en éloigne ? Parce que parfois, il y a des retours en arrière, ça s'est déjà arrivé dans l'histoire.
De l'ordre du possible, je ne sais pas, de l'ordre du souhaitable, oui. Ouais. Moi, je suis plutôt d'accord avec le fait qu'effectivement, je ne pense pas que ce sera nous qui le verrons. Et peut-être même pas mes enfants, mes petits-enfants, si j'en ai. Ça me paraît vraiment compliqué, quoi. Surtout que, comme moi, je l'ai dit plusieurs fois, j'ai plutôt une conception assez générale des dominations. Et donc, s'il n'y a plus le patriarcat, il y aura probablement encore d'autres choses qu'il faut combattre. Donc, je crois que c'est vraiment un combat de très longue haleine, mais qui en est, en fait... Alors, au début, sans être au début, parce qu'en fait, c'est une lutte qui existe depuis très longtemps, mais qui n'était pas formalisée comme telle. Mais on va dire qu'il y a quand même une accélération sur ces questions-là depuis la moitié du XXe siècle, à peu près. Donc, en fait... Cette lutte-là, elle est quand même relativement courte dans l'histoire, et encore plus dans l'histoire de la domination, en fait, en général. Donc, pour le moment, on en est au tout début, mais on ne sait pas où ça va arriver. Évidemment, c'est souhaitable d'arriver à quelque chose de plus égalitaire, voire même d'égalitaire tout court. Mais on n'y est pas, je pense.
Ok. Bon, restons quand même sur l'idée qu'on va vers un mieux.
Ça, c'est sûr, oui.
Et qu'on souhaite, en tout cas, tous autour de la table, la même chose. Merci à toutes et à tous pour votre participation.
On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission. Merci donc, Marie, notre invitée
merci
du jour. Merci au docteur Vanache et merci à tous les jeunes présents aujourd'hui. Maria, César, Lucie, Kelly, Gabi, Rachel, Alejandro, Anas et aussi Chimène, Louise, Anouk. Merci à Corentin et à tous les collègues de l'Entrelien. À très bientôt, au revoir tout le monde.
C'était Radio Clash, l'émission réalisée par les jeunes de l'Entrelien. Vous pouvez retrouver toutes nos productions sur www.radioclash.be ou sur www.radiopanique.org/émission au pluriel/radioclash.